One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Ah, le CES, grande messe annuelle de l'électronique grand public. Rendez-vous incontournable pour les journalistes spécialisés, les passionnés et les grandes entreprises liées à la tech. Après des années Covid un peu compliquées, il faut le dire, et une année 2023 de reprise, en 2024, le Consumer Electronics Show était bel et bien de retour. Le CES, ce n'est rien de moins que le salon dédié à la technologie et à l'électronique grand public, le plus important au monde. Il se tient chaque début d'année à Las Vegas et a été créé en 1967 par Jack Wayman. Dès sa première édition, l'événement réunit près de 200 exposants et 17 500 participants. Mais avec les années, le CES a changé, évolué, muté. Par exemple, il s'oriente de plus en plus vers du B2B. Pour d'autres, il se transforme peu à peu en un salon de l'auto. Certains, enfin, affirment que les innovations présentes sont de moins en moins des gadgets inutiles. Vous allez le voir, ou plutôt l'entendre, en réalité le CES, c'est un peu devenu un mélange de tout ça. Véritable réussite, l'édition de cette année qui s'est tenue du 9 au 12 janvier a accueilli plus de 4000 exposants. Le nombre de visiteurs pourrait, lui, avoir atteint les 130 000 selon l'organisation. Dans cet épisode, je vous propose donc un retour sur le CES 2024 et ses tendances avec le journaliste Jérôme Colombin. Allez, c'est parti, vous écoutez Culture Numérique, un podcast de Siècle Digital. Bonjour Jérôme.
Bonjour Grégoire.
Alors Jérôme, tu es journaliste, je te présente quand même si beaucoup reconnaîtront ta voix, je pense, mais tu es journaliste spécialisé, pour résumer, hein, dans le numérique et la tech.
Ouais.
Tu es actuellement l'animateur du podcast Monde Numérique, et je l'ai dit, certains de nos auditeurs reconnaîtront très probablement ta voix, pas que pour ça, parce que tu es passé par d'autres médias, Tech & Co notamment, France Info aussi,
oui,
pendant plusieurs années. Et donc, tout d'abord, merci d'avoir accepté, peu de temps après le CES, de venir dans Culture Numérique.
Avec plaisir.
Et justement, nous allons parler du CES 2024. Comment il était, ce CES, ce salon, cette année ?
Tout pourri. Non, pas du tout. C'était l'inverse. C'était vraiment un salon intéressant. Moi, j'ai bien aimé. J'aime bien le CES d'une manière générale, hein, il faut dire, parce qu'on n'est jamais déçu. Même
oui,
quand il ne se passe rien, il y a toujours des choses à raconter. On a eu quelques années de passage à vide, les années Covid, les années post-Covid, voilà. Mais là, on est dans le post-post-Covid, on est donc vraiment dans la reprise. Et c'était un CES intéressant parce que on l'a beaucoup dit déjà dans, je dis on, c'est-à-dire moi, mes petits camarades, dans les émissions qu'on a pu faire sur Tech & Co, tu l'as dit, BFM Business, Monde Numérique également. L'analyse globale qu'on fait, on est assez unanime, c'est de dire que c'était un CES sérieux. En fait, c'est-à-dire que on n'était plus seulement dans le CES gadget avec toutes les innovations waouh, les trucs qui font pimpon, les objets connectés bizarroïdes, alors qu'ils sont sympas parce que journalistiquement c'est plaisant, ça fait des choses insolites à raconter. Mais je pense que d'abord il y a une réalité, c'est qu'on n'est plus seulement dans le gadget, dans la tech, et puis en plus les gens en ont marre. Un petit peu de ce côté un peu qui dit gadget dit un peu futilité, gaspillage des ressources, voilà, il y a une dimension environnementale qui est importante.
C'est plus dans l'air du temps.
C'est plus dans l'air du temps et il faut du plaisir, donc il y a encore toute une dimension plaisir avec tout ce qui touche au divertissement et notamment les télés, enfin des équipements pour la maison, des trucs fantastiques, on pourra en parler un peu en détail si tu veux. Mais globalement, faire de la tech pour faire de la tech et pour faire du buzz, c'est un peu passé de mode. Voilà. Et on était dans des choses vraiment plus intéressantes avec de la deep tech, avec beaucoup de e-santé, puis d'autres choses assez sérieuses comme ça.
Et je suppose que ce n'est pas ta première édition, loin de là ?
Non, c'est pas ma première édition. Ça doit faire plus de 20 ans que je vais au CES. Je dis ça doit faire parce que je suis incapable de. Je ne suis jamais arrivé à retrouver la date. Enfin, à quel moment je suis allé au CES pour la première fois. Parce qu'en fait, je tiens une confidence, je sais que quand j'y suis allé, il n'y avait pas d'ordinateur. Enfin, on n'utilisait pas d'ordinateur dans le journalisme. Et donc, j'ai pas de traces numériques de ça. J'ai pas les papiers que j'ai écrits à l'époque. Les papiers que j'ai écrits à l'époque, ils doivent être dans une. sur une feuille de papier, dans des chemises, dans ma cave, ce que je garde, ce genre de choses. Mais j'ai pas, je peux pas en un clic retrouver le premier CES parce que je travaillais à France Info à l'époque et il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque.
Oui, j'allais dire, ça devait sûrement être pour France Info. Et par rapport à l'édition de l'an dernier, par exemple, l'édition 2023, qui était l'édition de la reprise après le Covid, est-ce que là, il y a quelque chose de différent, de radicalement différent ?
Radicalement, non, si ce n'est que le CES a vraiment fait le plein. L'an dernier, il y avait encore quelques grands absents. Je me souviens plus lesquels, mais enfin, il y avait encore des trous dans la raquette. Cette année, il y avait vraiment tout le monde. Alors, sauf quelques absents, par exemple, il n'y avait pas Stellantis, hein, la marque, le groupe français automobile. Et ça, c'est un grand absent parce que le CES est devenu un vrai salon de l'auto. Donc, les constructeurs automobiles, c'est des exposants désormais importants. Mais ils n'étaient pas là pour des raisons plus qui leur sont propres. Hein. Ils avaient essuyé une grève dans des usines aux États-Unis.
Ah oui,
c'est vrai. Un contexte un peu tendu, etc. Mais bon, à part ça, c'était un peu exceptionnel, on va dire. Et tous les grands absents et ceux qui avaient été absents pendant les années Covid et post-Covid, moi, je me souviens, enfin, on se souvient notamment, je ne sais plus quelle année c'était, mais il y avait un très grand absent, c'était LG, qui est quand même un gros acteur. Et LG s'était contenté d'avoir un stand avec des bornes et il y avait des QR codes. Et on devait scanner les QR codes pour voir les produits en réalité augmentée. Et c'était pathétique parce que c'était pas du tout ça qu'on venait chercher au CES de Las Vegas.
Oui, c'est pas du tout l'esprit. Ça donne pas vraiment envie d'aller voir le stand. Hein,
ah non, c'était vraiment un pis-aller. Bon, mais il faut se rappeler, hein, c'était une époque compliqué quand même, hein, ces années Covid.
Oui. Et puis LG s'est rattrapé cette année.
Et LG s'est grandement rattrapé cette année, hein, oui, tout à fait.
Tu as parlé de l'automobile. Justement, nous, à Siècle Digital, on a fait un épisode l'an dernier déjà sur le CES et on en avait profité pour dire, en tout cas, c'était l'analyse que j'avais fait à ce moment-là, que ça devenait un petit peu, et je pense que tu partages du coup la même, que ça devenait un petit peu un salon de l'auto bis, en quelque sorte, hein, parce qu'en plus, les voitures de nos jours ont de plus en plus de tech embarquées. Est-ce que c'est toujours le cas? On se dirige vraiment vers un salon de l'auto?
Ah oui, oui. Enfin, ce n'est pas qu'un salon de l'auto, parce qu'il faut aussi remettre ça en perspective et avoir une idée des proportions. Le CES, c'est gigantesque. C'est sur 3 sites différents. Chaque site a plusieurs espaces. Et il y a, en effet, à ce qu'on appelle le Convention Center, qui est l'espace historique du CES. Il y a tout un hall, qui est le hall nord, je crois, qui est entièrement consacré à l'automobile, à la moto, enfin et à la fois les constructeurs automobiles, les équipementiers, toutes les technologies qui tournent autour de l'automobile. Mais c'est un peu normal ça. Et ça date en fait, si ma mémoire est bonne, ça date de Tesla, parce que c'est Tesla le premier qui était venu se montrer au CES, parce que bah évidemment c'était une voiture hyper tech. Et moi je crois que la première Tesla que j'avais vue avec l'écran au milieu, etc., c'était au CES de Las Vegas. Mais à l'époque il y en avait pas beaucoup. Et puis de constructeurs. Et puis ensuite, ils sont tous venus les uns après les autres. Et aujourd'hui, c'est une dimension super importante. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça a enlevé des choses. Hein. Il y a toujours tous les autres, mais il y a en plus la voiture.
Ok, oui, ça se développe de plus en plus quand même, cet aspect auto. L'an dernier, dans l'épisode qu'on avait fait aussi, j'avais expliqué, c'était encore une fois, c'était notre analyse à Siècle Digital, que le CES devenait de plus en plus B2B. Il y a une grosse orientation depuis quelques années vers les entreprises et moins grand public. Le CES, à la base, c'est quand même le plus grand salon de l'électronique grand public au monde. Est-ce qu'on s'éloigne pas un petit peu de l'électronique grand public ?
Si, ça c'est certain. C'est le Consumer Electronics Show. C'était le salon des téléviseurs, des caméscopes, des magnétoscopes, des écrans plats. C'était vraiment... En début d'année au CES, on te montrait tout ce que les gens, tout ce qu'on nous tous, on allait acheter pour la maison dans les mois qui allaient suivre. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a pris une forte orientation B2B, notamment du fait des startups. Alors les startups qui sont certaines orientées B2C, mais beaucoup B2B. Et oui, il y a eu. Et puis après, il y a plein d'entreprises qui sont venues. Y compris des Français, il y avait Engie, il y avait La Poste, il y avait ces gens-là qui venaient à la fois communiquer un peu pour le grand public, mais qui n'avaient pas vraiment d'offres à proposer. Enfin oui, je me souviens, La Poste montrait des boîtes aux lettres connectées, etc. Mais c'était au-delà de ça, c'était une vitrine pour mettre en avant une démarche d'innovation et qui s'adressait aussi beaucoup à des partenaires professionnels. Alors oui, ça a pris totalement une dimension B2B, mais encore une fois, le CES a ça de magique, c'est que le nouveau ne remplace pas l'ancien, il vient se superposer. Donc il y a aussi encore quand même beaucoup de choses B2C, même si on ne parle plus seulement que de ça.
Aussi le fait peut-être, par rapport à ce que tu disais juste avant, de perdre un peu cet aspect gadget, qui mine de rien est grand public, ça amène forcément à plus de B2B. Pour toi, c'est pas un petit peu dommage de perdre, tu l'as dit, ça remplace pas, mais mine de rien, de perdre un peu quand même l'aspect B2C, grand public?
Oui, bien sûr, mais encore une fois, je pense que faut pas être blasé, mais on a un peu plus de mal à rêver aujourd'hui sur des écrans toujours plus grands, des écrans toujours plus plats, qu'est-ce qu'il y avait? Les ordinateurs, les ordinateurs, c'est terrible, mais c'est devenu une commodité, quoi, les PC.
Oui, c'est vrai, oui.
Tu ne t'extasies plus sur des laptops qui font ceci, qui font cela. Alors, à moins vraiment d'être spécialisé là-dedans ou d'avoir... bien sûr, il y a des subtilités dans chaque marque, chaque gamme, etc. Mais il n'y a pas vraiment de rupture dans tous ces domaines-là. Donc, si on veut être un peu... aller chercher un peu ce qui peut vraiment, on se dit, avoir un impact, changer un peu nos vies au quotidien... c'est plus tellement les ordinateurs et les télés. Hein. Les télés, bon, ça reste un élément très, très important. Et chaque année, il y a une nouvelle histoire de télé à raconter. Il y a eu l'époque des télés 3D, il y a eu l'époque des télés incurvées. Enfin, et avant, il y avait eu l'époque des écrans plats, ce qui était quand même une sacrée révolution. Puis cette année, c'était donc les écrans transparents. Ils sont sympas, les constructeurs, parce que tous les ans, ils arrivent à nous mettre une tendance comme ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde va acheter un écran transparent dans l'année 2024, bien sûr que non. Mais au moins, voilà, ça fait une nouvelle histoire à raconter, quoi.
Oui, c'est une petite nouveauté quand même qui attire. Mais c'est un peu gadget aussi, les écrans transparents. J'ai vu à quoi ça ressemblait, c'est un peu gadget.
C'est un peu gadget, mais ça fait partie de ces choses qui, quand elles arrivent, on ne sait pas trop si ça va marcher ou pas. La 3D, franchement... qui aurait pu dire que... enfin, peut-être qu'il y a des gens très, très forts dans la prédiction de l'avenir qui auraient pu dire que ça allait se planter. Moi, j'avoue humblement que je trouvais ça intéressant. J'avais pas forcément très envie d'acheter un écran 3D avec des lunettes et tout. Bon, je crois que j'en ai acheté un quand même, malgré tout. Mais j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé 3 films et puis après, tu sors plus tes lunettes, quoi. Parce qu'il y avait cette barrière de devoir porter des lunettes. Donc, est-ce que les écrans transparents, c'est un gadget? Oui, aujourd'hui, c'est un gadget. Après, l'argumentaire qui est derrière, c'est de dire que l'écran de télé, lorsqu'il est à la maison éteint, il est moche et on essaye par tous les moyens de le camoufler. Et donc, on l'a transformé en cadre avec le système de frame et puis les autres qui ont copié le frame de Samsung. Donc, on affiche des tableaux à la place d'un écran noir. Et là, l'étape suivante, c'est de rendre le truc transparent pour en faire une espèce de choses qui se voient moins dans la maison. Bon, en effet, je suis pas sûr que ça va être un raz-de-marée, l'écran transparent. Mais techniquement, c'est intéressant parce qu'ils ont réussi en plus à implanter, à faire ça avec leur nouvelle technologie d'affichage vidéo. Donc, c'est les écrans OLED pour LG, les écrans LED, micro-LED pour Samsung. Et on est vraiment monté en qualité parce que les premiers écrans transparents qu'on voyait il y a quelques années, c'était pas joli, joli. Là, ça commence à devenir pas mal, hein.
Oui, tant mieux. Et puis, ça fait une histoire à raconter, comme tu l'as dit.
Ça fait une histoire à raconter, bien sûr. Mais le CES, on vient chercher des histoires. On vient pas chercher la vraie vie. On vient voir des trucs. Il y en a certains qui passeront la barre, qui vont devenir des choses que tout le monde achètera. Et puis, d'autres, non. Certainement pas. Dans les appareils connectés pour la santé, par exemple, il y a des trucs qui... ça fait maintenant... ça fait plusieurs années quand même qu'on est sur la thématique de la e-santé. C'est quand même des choses qui sont sacrément rentrées dans la vie des gens, hein. Les pèse-personnes connectées, les thermomètres connectés, les tensiomètres connectés,
oui,
toutes ces choses-là, ça fait partie du quotidien. Ça s'achète presque en pharmacie. Maintenant, tu vas acheter un pèse-personne, tu vas acheter un pèse-personne connecté, a priori, pour quelques dizaines d'euros de plus. Ce serait ballot de revenir, d'utiliser des anciens appareils.
Tout à fait. Et en parlant de santé, quelles étaient pour toi les tendances cette année au CES 2024 On a évoqué la santé là, mais on a aussi parlé de l'automobile, des téléviseurs, on en a pas mal parlé aussi.
Ouais.
Est-ce que c'était ça les plus grosses tendances ou inévitable aussi, je le dis, mais ça surprendra personne, l'intelligence artificielle. Est-ce que c'était pas la plus grosse tendance?
Eh ben non. Alors c'est amusant parce oui et non. C'est-à-dire qu'on vraiment, on s'attendait à ce que ce soit le raz-de-marée IA, c'est-à-dire qu'ils nous en mettent plein la tête, que tous les stands soient bariolés avec, je sais pas quoi, powered by AI. Et c'était le thème du principal du salon, je sais plus comment ça s'appelait. Enfin, AI quelque chose. Samsung aussi en avait fait son slogan à sa conférence de presse, AI for all. Alors, et en même temps, sur les stands, on parlait pas que de ça, mais vraiment loin de là, on parlait pas que de ça. Et puis, il y a souvent des choses qui sont mises en avant dans les messages qui sont affichés et tout. C'était pas que de l'IA. C'est-à-dire que, en fait, l'IA est dans la tech depuis plusieurs années maintenant. Par exemple, dans les objets connectés de santé, il y a des trucs boostés à l'IA depuis longtemps. Mais c'est vrai que 2023 a été une année exceptionnelle avec le phénomène des IA génératives. Et on pensait que ce serait l'implémentation des IA génératives qui exploserait au CES. Eh bien, ça, non. Ça, non, c'était rien de plus que la continuité de ce qu'il y avait avant, en fait. Donc, toujours de l'IA, mais ça fait des années qu'il y a de l'IA dans les produits tech. Donc, il y en avait encore, mais c'était pas le « Waouh, regardez !» Alors, s'il y avait des trucs un peu bizarres, genre, tu vois, un vélo avec ChatGPT ou des…
Un vélo avec ChatGPT.
Ouais, enfin, tu peux converser avec le vélo avec ChatGPT, on te met du ChatGPT dans la voiture.
Pourquoi pas ?
Il y a Volkswagen aussi qui a annoncé du ChatGPT dans le tableau de bord, enfin, avec lequel tu peux converser. Mais bon, voilà, j'avais vu ça, Amazon avait mis Alexa dans la voiture il y a 2 ans ou 3 ans, donc…
Oui, c'est vrai.
On n'était pas dans l'ultra révolution. Donc en fait, l'IA n'était pas aussi écrasante que ce qu'on aurait pu penser au début.
Ça en est presque décevant. Avec le boom de l'IA, on pouvait s'attendre peut-être à ce que ce soit vraiment le symbole, le CES, de la démocratisation, de l'accès de l'IA au grand public.
Non. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, encore une fois, mais ce n'était pas ce qui était le plus mis en avant. C'est peut-être encore un peu trop frais. Et puis, c'est très abstrait. Puis, attention, le CES, il faut du hardware. L'IA, ça reste du software et de l'abstrait. Donc, il y a ça aussi.
Et quelles étaient les autres tendances, alors, selon toi ?
Alors, quelles étaient les autres tendances ? J'ai dit l'intelligence artificielle. Il y avait ce qu'on appelle les deep tech, c'est-à-dire des technos qui sont, alors là, pour le coup, souvent très B2B et qui viennent vraiment de la recherche, souvent de la recherche académique. Les produits qui sont présentés sont l'aboutissement de plusieurs années de recherche. Par exemple, il y avait une start-up française qui présentait des MEMS, enfin, ils présentaient ça sous forme de ce qu'ils appelaient des micro-moteurs à silicium. Et en fait, c'est mettre dans des circuits intégrés de silicium des éléments mécaniques qui peuvent faire bouger des micro-pièces.
Ok.
Typiquement, ça peut servir. Alors, ils avaient passé un partenariat avec Timex, pour concevoir une montre. Donc, ils avaient une montre qui fonctionnait avec ça. Alors, tu vas me dire, la montre en elle-même n'était pas révolutionnaire, mais elle implémentait ce système-là qui ensuite pourra être adapté, utilisé dans des tas de dans des outils industriels. Mais comme c'est une start-up qui fait un petit produit qui doit être transformé par d'autres entreprises par derrière, forcément, c'est pas très facile à expliquer, mais c'est vraiment de la haute technologie. C'est vraiment des trucs puissants. Il y a aussi des choses à partir des analyses d'images à partir de LIDAR, j'avais interviewé une autre start-up. C'est souvent les start-up qui font des choses sympas dans ce domaine-là. Une qui faisait de l'analyse d'émotions par intelligence artificielle. Alors, on voit ça, on rigole, on dit « Ah ouais, c'est ça, c'est amusant ». En fait, non, je veux dire, derrière, il y avait un mec qui avait consacré 10 ans de sa vie à faire des études de neurosciences pour effectivement arriver à décrypter les émotions à travers les expressions du visage, l'écriture, l'expression de la voix, les éléments corporels et autres pour arriver à profiler des émotions. C'est des trucs qui sont hyper puissants. C'est pas que c'est gadget, c'est un peu abstrait, il n'y a pas vraiment de produit fini pour monsieur, madame, tout le monde, mais il y a vraiment de la recherche et de la tech et du savoir-faire derrière tout ça. C'est intéressant quand même.
Oui, ça peut arriver en plus dans les années qui viennent, dans des produits grand public.
Exactement, voilà. C'est des briques qui seront utilisées pour d'autres choses plus tard.
Je me posais une question aussi, c'est par rapport à l'univers de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, réalité mixte, bref, les casques qui y sont liés. Tu le sais comme moi, tous les journalistes un peu tech, numérique en ont parlé. Apple a annoncé la date de sortie de son Vision Pro, de son casque de réalité mixte pendant le CES, mais pas au CES. Est-ce que ces univers-là de réalité mixte, etc., étaient aussi très présents au CES cette année? Et est-ce que Apple a un petit peu volé la vedette au stand qui parlait de ça au CES?
Alors, je pense qu'Apple voulait voler la vedette, mais...
Oui, c'était voulu.
Mais n'y est pas vraiment arrivé. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé ça, effectivement, le lundi 8 janvier, qui est le jour traditionnellement des conférences de presse. Donc, ça veut dire que le salon n'est pas encore ouvert, mais c'est le jour où toutes les grandes marques, Samsung, LG, Sony, Nvidia, TCL, ils font tous leurs grandes présentations. Et effectivement, c'est tombé ce jour-là. Tout le monde en a parlé, parce que, enfin, la presse tech en a parlé parce que c'était absolument normal d'en parler, mais... Je peux pas dire que ça ait volé le... Ben non, parce que c'était pas l'annonce du produit, c'était juste l'annonce de la date de sortie. Donc après, c'était plus forcément dans toutes les conversations. Hein. Et pour répondre à ta question sur la présence ou pas de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ce qu'on voit surtout... Alors je dirais la réalité virtuelle, c'est un peu de l'histoire ancienne au CES.
Déjà pas...
Oui, enfin les trucs un peu décoiffants, c'est pareil. Je vais pas faire mon vieux machin, mais j'ai vu ça il y a quelques années déjà. Au début, c'était spectaculaire, on montrait ça au grand public. Après, on a commencé à parler d'applications, donc ça devenait B2B parce qu'en fait la VR elle est B2B, hein,
et essentiellement
pour la formation, etc. Donc il y avait des choses qui étaient intéressantes. L'AR aussi, il y avait Microsoft qui faisait des démos. Des trucs comme ça. Bon, il y avait le CES, puis il y a aussi le Mobile World Congress de Barcelone. En revanche, au CES, il y a un truc qui est récurrent depuis quelques années, c'est cette espèce de quête, c'est les lunettes connectées. Donc, c'est pas du Vision Pro, c'est pas du Oculus, c'est pas du HoloLens, mais c'est des fabricants chinois ou autres qui te montrent des lunettes avec des verres qui projettent directement du contenu dans le champ de vision. Il y a TCL qui fait ça aussi, qui m'a montré un produit qui était très, très expérimental. J'avais à peine le droit de le toucher. La jeune femme qui me faisait ça, qui me faisait la démo, elle me dit « Attention, attention, vous avez tout cassé !» Voilà, c'était à manier avec précaution et pour dire que c'était encore très expérimental. Et on n'est pas sur du Vision Pro avec de l'informatique spatiale, machin bidule, mais on est sur des lunettes qu'on pourrait presque porter dans la rue et qui, l'idée, c'est d'afficher des informations sur... ta navigation pour trouver ton chemin, ou bien pour des contenus sur des personnes, etc. Alors, deux choses. D'abord, ce qu'il y a de différent par rapport aux années précédentes, c'est qu'ils sont arrivés à agrandir le champ de vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir des images qui vraiment sont... C'est comme si tu avais un grand écran devant les yeux, mais en surimpression du monde réel, en couleur, c'est pas mal. Et la promesse aussi, c'est pour faire de la traduction, par exemple. Donc, tu discutes avec quelqu'un qui parle pas ta langue et tu as le script, les sous-titres qui s'affichent en temps réel.
Ouais, pratique.
Bon, ouais, pratique, ça marche pas. Hein. C'est la promesse, mais bon, ça fait 3 salons où on montre ça et 3 salons où tu dis, ah ouais, c'est super, mais revenez le jour où ça marchera, quoi.
C'est encore expérimental.
C'est très, très expérimental. Ça a besoin de beaucoup de ressources. Il y a du lag et tout. Mais quand même, la promesse est vachement sympa. Voilà. Et puis c'était amusant parce que c'était un constructeur chinois aussi. Je me dis, mais à quoi ça peut servir? Et par exemple, on croise les gens dans la rue et puis tac, ça scanne et ça vous dit qui c'est. Je dis, ah ouais, d'accord. Mais ça, ça risque pas de venir en Europe. Hein.
Non, non, non. À mon avis, niveau réglementation et même conception de la chose, le principe même, à mon avis.
Ah non, non, non. Mais en Chine, ça peut marcher.
Où je m'étonne pas, c'est en adéquation avec la politique et la réglementation chinoise.
Oui, il y a plus de liberté ou de non-liberté qui permettent ce genre de choses.
C'est ça, sûr. Exactement. Est-ce que tu penses que les tendances dont on vient de parler du CES 2024 seront les tendances sur les différents marchés de 2024? Par exemple, je pense que ce soit aux écrans transparents de télévision, mais il y a aussi eu les smartphones pliables, il y en a eu dans tous les sens, hein. Pas ce qu'on connaît aujourd'hui avec ceux de Samsung ou de Oppo, encore d'autres. Il y a eu aussi le robot qui scanne la peau pour des usages médicaux, qui a fait aussi assez sensation. Tout ça, ça n'arrivera pas avant, c'est des technologies qui n'arriveront pas avant 2025 ou même plus loin dans le temps sur le marché. Donc, est-ce qu'on peut dire que les tendances du CES reflètent vraiment les tendances de 2024 ?
Non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ce n'est pas aussi clair parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont encore loin du marché, à part chez les constructeurs, les grandes marques, style constructeur de télé, parce que tu prends un Samsung ou un LG ou un TCL ou un Hisense, ils ont, par exemple, il y avait donc cette attraction de l'écran transparent, mais il n'y avait pas que ça. Ils sont aussi sur des produits 8K, sur des grands écrans, sur des projecteurs laser courte focale avec des très belles images, avec une très grande luminosité. Ça va arriver dans le courant de l'année. Ça, c'est sûr que c'est des produits qui vont se vendre dans le courant de l'année et c'est du concret. Ça coûtera assez cher, mais bon, il y a des téléviseurs, du micro LED 115 pouces, un truc magnifique. Ça va sortir, mais à 25 000 euros. Mais c'est vrai que c'est à deux vitesses, le CES. Il y a ce qui va sortir dans l'année et puis il y a ce qui va suivre son cours et qu'on verra l'année prochaine sous une autre forme et qui va comme ça alimenter la grande rivière de l'innovation technologique.
Je voulais aussi qu'on parle en quelques mots de la présence française au CES. Est-ce que la France était... La French Tech était bien représentée et présente en force cette année.
Oui, comme d'habitude. C'est vraiment une habitude. Les Français sont présents en nombre et en qualité cette année, encore plus que les années précédentes. C'est-à-dire qu'il y a eu des époques un peu... Enfin, moi, je n'aimais pas trop où on sentait que... C'est surtout les régions françaises qui font monter les startups au CES parce que ça leur fait des vitrines, à la fois pour les startups et pour les régions. Et donc, il y a eu une époque où on emmenait n'importe qui. Il y a eu la grande époque de la patate connectée. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça.
Non.
C'était un exposant dans le secteur de la zone de la French Tech qui présentait sur son petit stand une patate connectée, donc une pomme de terre avec une électrode et un petit écran ou je ne sais pas quoi, etc. Bon, et en fait, c'était évidemment une blague. C'était une blague, c'était un gros scam, mais c'était pour montrer justement le côté futile et déconnecté.
Ça me rassure, je me disais, quelqu'un qui va sérieusement en présentant une patate connectée, faut oser.
C'était du second degré, mais ça reflétait bien une certaine réalité. Il y a quand même eu une époque où on voyait les diffuseurs de parfums, faites votre parfum, votre rouge à lèvres sur mesure. Bon, pourquoi pas, après ça peut marcher ces choses-là, mais... c'était un peu bullshit où on voit encore des applis. Tu sens que on te met ça sur un salon de technologie parce que il y a une appli, mais en fait derrière ça parle de tout à fait autre chose. Bon, et ça, il y en avait un peu moins au profit de choses beaucoup plus qualitatives avec un potentiel business beaucoup plus puissant. Et donc ça, c'était intéressant. Pour la French Tech notamment, pour beaucoup, il n'y avait pas que les Français, mais il y avait les Coréens qui étaient présents en masse avec énormément de startups. Et les Français, ils sont présents pourquoi ? Parce qu'en plus, c'est un truc tout bête, enfin qui n'est pas si bête que ça, mais qui a son importance, c'est que sur l'espace réservé aux startups qui s'appelle l'Eureka Park, ça fait des années qu'ils squattent le plus bel endroit, le plus bel espace. C'est-à-dire, juste quand tu rentres dans l'Eureka Park, tu tombes sur cette concentration de startups qui sont toutes sous la bannière French Tech. Alors, il y a des logos French Tech, blanc et bleu, blanc, rouge sur blanc, etc. French Tech, Choose France, etc. Ça, c'est mis en place par Business France, qui est une émanation du ministère de l'économie et des finances. Et ça marche, c'est-à-dire qu'il reloue cet espace d'année en année et c'est le plus bel espace de l'Eureka Park qui est intense. Et donc, on voit très, très bien les Français quand on arrive. Ils ne sont pas seulement là. Là, c'est la French Tech, mais il y a d'autres exposants français répartis un peu partout, même hors bannière French Tech.
Donc, comme les Français, quoi, même oui. Le choix du lieu est stratégique, finalement.
Bien sûr, parce que le CES, il ne faut pas l'oublier, c'est un salon de rencontres. On est là pour voir, pour toucher, pour rencontrer des gens, pour discuter, pour networker. Sinon, on ferait des Teams.
Oui, c'est vrai.
Ça serait pas très intéressant. Là, c'est éminemment humain, le CES. C'est ça qui est sympa, quand même.
On terminera avec cette question. Quelle innovation ou nouveauté, de manière générale, t'as le plus marqué cette année ?
Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Bon, les écrans transparents, ça m'a pas laissé froid. Les petits robots pour la maison, Bali de Samsung, moi j'aime bien, mais j'y crois pas trop. Enfin, à mon avis, c'est pas pour tout de suite. J'étais assez sensible à tout ce qui est, un peu deep tech. Donc, je parlais des micromoteurs au silicium. Il y avait un système aussi, ça c'était les Américains qui présentaient un truc de transmission des données en utilisant le corps humain comme médium. C'est-à-dire que tu mets un objet électronique sur ta main et il va transmettre des informations à par exemple, à une autre personne, un autre objet électronique, mais simplement en le touchant. Et ça passe par le corps humain, c'est une espèce de Bluetooth qui passe par le corps, en fait. Et contrairement au Bluetooth, c'est qu'il n'y a pas de risque de piratage, il n'y a pas d'interférence, c'est pas mauvais pour le corps, hein, je te rassure.
Ouais, j'allais dire, non, ça m'a posé des questions.
Non, ça ne fait pas de mal, on ne sent rien du tout. Et voilà, bon, on ne sait pas trop à quoi ça peut servir. Apparemment, l'armée américaine était intéressée par ça. Après, c'est une technologie qui n'est pas tout à fait neuve, mais ils ont réussi, ils arrivent à faire passer du 30 mégabits par seconde quand même, donc ça fait de la vidéo. On peut passer de la vidéo comme ça, simplement en touchant ou même en s'approchant d'un récepteur. Voilà, bon, c'est des choses qui poussent vraiment à les limites. Moi, j'aime bien ces petites choses-là quand même. Mais ce qui m'a plu aussi, c'est l'esprit du CES. C'est-à-dire que, encore une fois, sérieux, business, il y avait le côté aussi inclusif, beaucoup d'applis pour un chatbot en langue des signes. On peut lui parler comme ça, il reconnaît le langage des signes. Des outils anti-dyslexie pour tout ce qui est lutter contre les handicaps, les exosquelettes aussi pour les personnes à mobilité réduite à qui on arrive à redonner une force incroyable. Bah, toutes ces choses-là, c'est du tech for good, c'est formidable, c'est de l'innovation utile. Et ça, c'est vraiment bien. Et derrière tout ça, il y a presque un côté politique, c'est-à-dire que la tech, c'est un élément de bien-être individuel potentiellement, parce que il faut le rappeler, parce qu'on a souvent tendance à diaboliser la technologie en disant ouais c'est pas bien, on est esclave des écrans tout ça machin, mais non, la tech ça reste aussi quand même un facteur d'émancipation et aussi de puissance économique et donc inévitablement de puissance politique voire même géopolitique par les temps qui courent et dans les grands équilibres qui existent à droite et à gauche. Voilà.
C'est vrai que même dans un monde où la crise écologique environnementale est de plus en plus présente dans l'actualité et dans la tête de chacun, c'est vrai que la tech est de ce point de vue-là aussi de plus en plus critiquée, alors que la tech nous donne aussi beaucoup d'espoir, mais tu l'as bien rappelé.
Mais la tech a son poids environnemental, mais comme tout, je veux dire, un enfant qui naît et il va consommer des ressources et il n'est pas bon pour la planète, et pourtant il faut faire des enfants. Et la tech, c'est pareil, elle a son poids environnemental, mais elle a aussi... Moi, j'ai un podcast, une série d'émissions sur monde numérique qui s'appelle Objectif 2050. Et la baseline, c'est de dire que la technologie ne sauvera pas le monde, mais on ne sauvera pas le monde, entre guillemets, sans la technologie. Elle fait vraiment partie. C'est pas du solutionnisme technologique de dire qu'il faut absolument innover et des innovations technologiques au service de la planète. C'est absolument indispensable. Il faut le rappeler, il faut le marteler quand même.
Et le CES nous montre bien que la technologie peut avoir tous ses aspects positifs aussi. Merci en tout cas, Jérôme, pour ton retour et ton expertise aussi sur le CES.
Avec plaisir, Grégoire. Merci beaucoup.
Je tiens également à remercier nos auditeurs et nos auditrices pour leur écoute et leur fidélité. N'oubliez pas que tous nos podcasts, dont notre quotidienne, Signaux Faibles, sont disponibles sur siècledigital.fr, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien manquer. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour plus de culture numérique.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast. We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls,
or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.